Short Stories avec Émilie Glory. L'intendant Ralph de Miss Mary Elizabeth Braddon, traduit de l'anglais par Charles Bernard Derone. Extrait du recueil « L'intendant Ralph et autres histoires » paru aux éditions Hachette en 1863. Chapitre 2 « Une ombre qui entend ». Pendant longtemps, il y avait eu une grande curiosité à Aulnay au sujet de Dudley Carleone, pour savoir de quelle manière il allait gérer sa nouvelle propriété. Chacun savait que les Carleone n'étaient pas riches et que la ferme grise exigeait de grandes dépenses pour pouvoir rapporter un certain revenu. Les terres avaient besoin d'être drainées, mais le manque d'argent avait, jusqu'à ce jour, été un empêchement à cette opération, et les propriétaires de l'immeuble avaient végété, tantôt avec une bonne récolte, tantôt avec une mauvaise, sans avoir jamais enrichi, ni eux, ni leurs enfants, et encore bien contents lorsqu'ils pouvaient joindre les deux bouts. Comment donc aller s'y prendre, se demandaient les habitants d'Aulnay, Dudley Carleone pour prospérer avec un patrimoine dont son père et son frère avaient obtenu si peu. Mais tout le monde, dans Aulnay, convint bientôt que Dudley Carleone était loin d'être un mauvais fermier. Il se mit activement à l'œuvre et, à peu de frais, il fit de grandes améliorations. De larges fossés furent creusés dans les prairies basses et l'eau ramenée à la rivière d'où elle sortait, pendant que de nouveaux troupeaux, supérieurs aux anciens, paissaient dans des pâturages assainis, là où, pendant la gérance de Martin, ils se nourrissaient dans des prés humides. Enfin, à la surprise de tout le monde, le jeune Carleone parut un meilleur fermier que ne l'avait jamais été son pauvre frère. Mais lorsqu'on le félicitait de son excellente gestion, il répondait qu'il avait lui-même une bien faible part dans les améliorations apportées à la ferme grise, car elles étaient l'œuvre de Ralph, son intendant et son plus grand trésor. Si cette observation était, par hasard, faite par Dudley pendant qu'il montrait la ferme à un voisin, quelques têtes brunes, au visage pâle et aux yeux gris, sortaient ordinairement de derrière une grange ou une construction extérieure, ou regardaient du haut d'une meule de foin. Et Ralph, l'intendant de la ferme, lui-même, apparaissait, tortillant une mèche de cheveux noirs et roides, pour approuver l'éloge donné par son maître. Les connaissances de Dudley Carleone, d'après certaines particularités dans les manières et les habitudes de l'intendant de la ferme, remarquèrent que partout où se trouvait le maître, on était certain de rencontrer le serviteur. C'était sans doute un pur hasard, mais ce fait se renouvelait si fréquemment qu'on en fit l'observation. Si Dudley donnait à dîner, Ralph s'érigeait en sommelier et servait à table, apportant dans la salle à manger une forte odeur de foin et de légumes, et généralement cassait deux ou trois assiettes de vieux chine qui faisaient partie du service qui avait appartenu à la grand-mère de son maître. Il était certain que la maladresse de l'intendant ennuyait prodigieusement les invités, mais il était certain aussi que son maître n'y prenait point garde et paraissait consulter plutôt les sentiments de son serviteur que ceux de ses hôtes ou même les siens. Ralph, le trésor des serviteurs, poli, brun et pâle, se tenait derrière la chaise de son maître, renversant sur la nappe blanche plus de vin qu'il n'en mettait dans les verres et écoutant attentivement tout ce qui se disait. Si, par une soirée d'été, Dudley se promenait avec un ami en fumant son cigare sur la pelouse devant la maison, l'intendant se transformait aussitôt en jardinier et s'occupait à transplanter des géraniums ou à faire des boutures d'œillets. Si, par une nuit sombre, le jeune homme accompagnait une connaissance, une partie de la route vers Aulnay, l'intendant était continuellement sur ses talons, prêt à ouvrir les portes ou à lui éclairer le chemin avec une lanterne. Si, le dimanche, Dudley, après l'office, s'arrêtait pour causer avec un voisin dans le cimetière, Ralph l'intendant, sa sœur Marthe suspendue à son bras, apparaissait, regardant une tombe ou lisant une épitaphe à quelques pas de son maître. Mais le jeune fermier vantait sans cesse la fidélité et l'utilité de son serviteur. Et généralement, il terminait son éloge en déclarant que si Ralph se mettait dans la tête de quitter la ferme grise, il serait un homme ruiné. Ralph l'intendant arrivait toujours à ce moment et disait habituellement, en ôtant son chapeau et tortillant sa mèche de cheveux noirs, « Seigneur, Master Dudley, je ne vous quitterai jamais. » D'après le dire de son maître, Ralph était au-dessus de sa position. Il savait lire et écrire, et tandis que les autres laboureurs étaient à se chauffer le soir au coin du feu de la cuisine, fumant leur pipe ou tirant les oreilles du gros chien de berger, l'intendant se renfermait dans sa chambre et se livrait à l'étude. Dudley et Martin lui avaient appris tous les deux beaucoup de choses, étant jeunes garçons, tout en se promenant pendant les soirées d'été et surveillant les ouvriers à leur travail, car Ralph, l'intendant, était né dans la propriété, ainsi que sa sœur Marthe, la femme de charge de Dudley. Le jeune homme avait donné une petite chambre à part dans l'aile du bâtiment réservée aux domestiques, à Marthe et à son frère, et là, à la nuit, ils avaient l'habitude de s'asseoir, elle se livrant à un ouvrage d'aiguille, lui écrivant ou lisant avec activité sur un vieux bureau passé de mode qui avait appartenu à sa mère. Le frère et la sœur se ressemblaient beaucoup de personnes et de manières. Tous deux bruns et pâles, ayant les traits anguleux et forts, les cheveux noirs et lisses, les yeux gris et enfoncés. Tous deux grands et minces, tous deux graves, réservés et taciturnes, réguliers et systématiques dans leurs habitudes, précis et prudents dans leur manière de parler. Ils n'étaient pas très aimés des autres domestiques, mais on les respectait beaucoup. Et chaque laboureur de la ferme savait qu'il valait mieux offenser Monsieur Dudley Carleone que de courir le risque de déplaire à Ralph, son intendant. Maître de tous les serviteurs, en possession de pouvoirs illimités, l'intendant Ralph Purvis marchait d'un pas assidu et rapide, jour par jour, à la conquête de la ferme grise. Partout où le propriétaire de la terre se trouvait, ses pas rencontraient l'ombre de son serviteur de confiance. S'il parlait à quelqu'un ou rencontrait quelques personnes, Ralph était là pour écouter ses paroles et épier ses gestes. Les habitants d'Aulnay commencèrent à dire que Dudley Carleone était changé, mois par mois, semaine par semaine, jour par jour, heure par heure, depuis ce matin de septembre, jour de l'enterrement de son frère aîné. Il était devenu maigre et pâle, nerveux et chagrin dans ses manières, réservé et incertain dans ses discours. Le chagrin qu'il ressent de la mort de son frère est réellement absurde, disaient quelques personnes parmi les hommes. Il devrait chercher une affection nouvelle et se marier, disaient les femmes. Mais rien ne paraissait plus éloigné des idées du fermier que le saint état du mariage. Renfermé dans le manoir en pierre qui avait appartenu à sa famille pendant 150 ans, il ne voyait presque aucune espèce de société. Mais il restait assis tristement près de son foyer lorsque le temps était mauvais, ou bien par les belles soirées, flânait nonchalamment dans la ferme, causant des affaires du lendemain avec son intendant, Ralph. 3 années s'étaient écoulées depuis l'enterrement de Martine Carleone. Et le 3e septembre, après celui qui avait vu tomber cette pluie fine qui avait trempé les crêpes et les manteaux des personnes conduisant le deuil, ainsi que les vêtements des enfants du village, ce mois, dis-je, fut froid et horriblement triste. Le dernier jour du mois, M. Théodore Broughton, le seul avoué résident à Aulnay, dînait avec Dudley Carleone. Il était venu à cheval à la ferme grise pour causer de quelques affaires litigieuses qu'il avait entre les mains pour le jeune fermier, et Dudley l'avait engagé à rester à dîner. Les deux hommes dînaient à 5 heures dans la grande salle à manger en chêne, pièce humide et froide que le plus grand feu entassé dans l'immense cheminée ne parvenait jamais à chauffer totalement. Cette salle à manger, comme le salon, était éclairée par 3 croisées, dont 2 étaient situées sur le devant de la maison et s'ouvraient sur le jardin. L'autre donnait sur la rivière et sur la cour de la ferme. Il y avait bien peu de confortable dans la distribution et l'agencement de cette grande et triste ferme isolée. Une portée de porc bruyant courait sous la fenêtre de la salle à manger, et 3 ou 4 robustes chevaux de trait étaient immobiles, enfoncés dans de la paille humide, à quelques pas seulement de l'endroit où dînaient les deux hommes. Habituellement, lorsqu'il y avait société à la ferme grise, l'intendant Ralph se montrait, portant un vieil habit de son maître et une serviette sous le bras. Cette tendance visible à l'étiquette était si éloignée des habitudes ordinaires des Carleone, qui avaient toujours vécu de la façon la plus simple, qu'elle faisait l'étonnement de tout le monde et excitait le mécontentement général. Ce butor d'intendant avec sa figure brune ne paraissait jamais dans la maison du temps de Martine Carleone, disaient les invités de la ferme grise, et maintenant il se glisse sans cesse dans les appartements. Durant cette soirée du 30 septembre, la présence de l'intendant paraissait particulièrement désagréable à Théodore Broughton, l'avoué. Il désirait parler d'affaires, et il ne se souciait pas de le faire tandis que Ralph était là, derrière son maître, dans une attitude pleine de curiosité. Il dit à Dudley qu'ils pourraient bien se servir eux-mêmes et que, sans doute, la présence de l'intendant était nécessaire à la ferme. Mais ni le maître de Ralph, ni Ralph lui-même n'eurent l'air de comprendre ce qu'il voulait dire. Le jeune homme était évidemment embarrassé et l'intendant tint bon à sa place derrière le coude de son maître avec un regard bourru et un air résolu peint sur son visage basané. La vérité de tout ceci, dit l'avoué, c'est que j'ai besoin de causer quelques instants avec vous relativement à l'affaire et... Ah, certainement, vous entendez, Purvis. Monsieur Broughton a besoin d'avoir avec moi un petit entretien particulier. Laissez-nous. L'intendant Ralph restait immobile, roulant la serviette qu'il tenait autour de son bras et portant ses yeux de son maître au visiteur et du visiteur à son maître. « Vous entendez ?» répéta Dudley Carleone, devenant très pâle, mais ayant un éclair de colère dans ses grands yeux bleus. « Laissez-nous. »« Très bien, monsieur. » Et avec un salut plein de sécheresse adressé à son maître, l'intendant Ralph quitta la chambre. Il ferma la porte en sortant avec une certaine force, mais 2 minutes après, Théodore Broughton, qui était assis en face, vu qu'on la rouvrait avec précaution, et qu'on la laissait entrebâiller. « Vous avez des espions dans cette maison, Carleone, » dit l'avoué en se levant de table et allant à la porte qu'il ferma avec soin. « Je n'aime point mal parler des domestiques des autres, mais je ne puis m'empêcher de dire que je déteste votre intendant. »«
Quoi ?
Ralph Purvis ?»« Mon cher Broughton, mais c'est un garçon qui n'a pas de prix, le meilleur intendant de tout le pays, et d'une fidélité. »« Fidèle jusqu'à l'obséquiosité, je crois. » dit tout bas l'avoué en haussant les épaules. Puis, changeant la conversation, il discuta avec son client l'affaire pour laquelle il était venu à la ferme. Après que ceci eut été réglé d'une façon satisfaisante, ils parlèrent de différentes choses. Puis enfin, l'avoué raconta à Dudley les diverses suppositions faites par la population féminine d'Aulnay à propos de sa résolution de rester célibataire. « Par le fait, mon cher Carleone, dit-il en riant, vous devriez choisir un bon parti, et ceci me rappelle une idée qui m'est venue bien souvent. Et cette idée, c'est que Agnès Marlowe, la fille du recteur, serait la vraie fille qu'il vous faudrait pour faire une bonne femme. » Dudley Carleone fit un bond, comme s'il eût été piqué. Une sueur froide perla sur son front pâle, qu'il essuya d'une main tremblante, comme il répondait en hésitant. Oh non, non, Agnès Marlow est la dernière que je choisirai. N'avez-vous pas eu connaissance de ses engagements avec mon pauvre frère Martin? Oui, j'ai su qu'il devait se marier, et c'est pour cette raison que je crois que ce serait en partie fort convenable pour vous. Vous auriez l'air de remplir les intentions de votre pauvre frère en la faisant maîtresse de la ferme grise. Le cœur d'Agnès Marlow est enterré dans la tombe de Martin Carleon. Savez-vous bien, Broughton, que je crois fermement que le chagrin qu'elle a éprouvé de la mort de mon frère a exercé une certaine influence sur son esprit et qu'elle a quelque chose de dérangé depuis cet événement. Dudley Carleon prononça ces mots lentement et comme avec un effort pénible. Bon Dieu, qui a pu vous donner de telles idées ? Parce qu'elle m'a témoigné une aversion visible depuis que je suis devenue propriétaire du domaine, comme si réellement elle me détestait parce que je suis le maître de la ferme grise. Bah, mon cher ami, pure imagination de votre part, j'en suis certain. Qu'il en soit ce qu'il vous plaira, mais Agnès Marlow est la dernière personne que je songerais à épouser. Comme vous voudrez. Je n'ai pas la prétention de vous choisir une femme, mon cher Carleon. Mais ce que je dis, et ce que dit tout le monde, c'est que décidément vous devriez vous marier. Quelle triste existence vous devez mener dans cette vieille demeure sombre, sans autre société que cet obséquieux intendant à la face bronzée, et sa sœur également brune et obséquieuse, votre gouvernante. Pensez donc seulement, mon ami, combien la jolie figure souriante d'une gentille jeune femme éclairerait le bout de cette longue table. Bien, bien, je verrai ça. Dit Dudley en se levant de table avec son ami. Comme ils allaient quitter la salle, le jeune fermier se versa un verre d'eau de vie d'une bouteille placée sur le buffet et l'avala d'un seul trait. Pendant ce temps, les yeux de Théodore Broughton erraient machinalement autour des murs de la salle, regardant les vieilles peintures. En faisant cela, son regard s'arrêta par hasard pendant un instant sur la fenêtre donnant sur la cour de la ferme. Il faisait tout à fait nuit, mais dans l'obscurité, il aperçut distinctement une paire d'yeux fixés sur eux, derrière un carreau, et il découvrit en même temps une main rouge et calleuse qui avait soulevé le panneau de la fenêtre à une hauteur d'environ 3 pouces. « Je vous ai dit, Carleon, que vous aviez ici des espions » répéta-t-il en élevant la voix de façon à être entendu de la personne du dehors. « Regardez à cette croisée !» Mais quand l'avoué et Dudley Carleon atteignirent la fenêtre en question, on ne put rien voir. Seulement, dans la demi-obscurité de la cour, on apercevait une figure qui conduisait les chevaux de trait à l'écurie. « Je ne me trompais point, » dit Théodore Broughton. « L'espion, c'était votre intendant, Ralph Purvis. J'étais sûre de ne pas m'être trompée à cause de l'éclat farouche de ses yeux. Dudley Carleon, ma profession me met en rapport avec d'étranges personnes. Cela a pu me rendre soupçonneux ou seulement prudent. Tout ce que je puis vous dire en ami et en conseiller, c'est ceci. » Prenez garde à cet homme. Mon cher ami, j'ai le plus grand respect pour votre sagacité magistrale, mais vous vous trompez totalement. Je confierai à Ralph Purvis des monceaux d'or. Confiez-lui toutes les mines de la Californie si vous voulez, mais ne lui confiez pas vos secrets. Le visage de Dudley, qui d'abord était pâle, devint aussitôt écarlate. Juste ciel, dit l'avoué. Savez-vous que je regarde ce garnement tellement comme un espion et un serpent que si je ne le voyais là-bas hors de portée d'entendre et conduisant ses chevaux, je croirais en me retournant le voir derrière mon épaule ? Marthe a servi le café dans le salon, monsieur, dit une voix à quelques pas derrière les deux amis. Dudley et l'avoué se retournèrent brusquement. Ralph se tenait à une petite distance de la porte ouverte, à l'autre bout de la chambre. « Je rentrais les chevaux, monsieur, lorsque je vous ai vus tous les deux à la fenêtre. C'est pourquoi je les ai confiés à William, et je suis accouru ici pour vous dire que le café était servi. » Lorsque Dudley et son visiteur entrèrent dans le salon, ils trouvèrent Marthe Purvis, occupée à arranger les tasses et les soucoupes sur une petite table auprès du feu. Parée et modeste, vêtue de gris sombre avec ses cheveux plats et noirs collés sous son bonnet blanc, elle allait et venait dans la chambre éclairée par le feu, aussi légèrement que si elle eût été la reproduction fantastique de l'une des sombres peintures placées sur les murs lambrissés. En marchant dans la clarté pétillante du feu, elle projetait une ombre sur le parquet ou sur les murs, et toute irrégulière et hideuse que parut cette ombre, elle paraissait encore plus sombre lorsqu'elle passait devant le maître de la ferme grise. On amena le cheval de l'avoué devant la porte d'entrée quand l'horloge du salon sonnait 8 heures. Dudley suivit son ami jusque dans le jardin. Ralph Purvis tenait le cheval par la bride. Théodore Broughton haussa les épaules à la vue de l'intendant, mais il se mit en selle sans dire mot. « Je vais vous reconduire un peu, Broughton, » dit Dudley, comme l'avoué lui souhaitait le bonsoir. « Irai-je avec vous pour ouvrir la porte, monsieur ?» demanda l'intendant. « Non, je l'ouvrirai moi-même. » Il faisait tout à fait nuit, et un épais brouillard s'élevait de la rivière près de laquelle marchaient les deux amis. L'avoué avait mis son cheval au pas, et Dudley Carleone tenait la bride pour guider l'animal le long de la berge étroite. Lorsqu'ils eurent atteint la barrière qui marquait la limite de la ferme du côté d'Aulnay, le jeune homme souhaita une bonne nuit à son ami et retourna lentement à la maison. Une figure sombre s'éleva des bords inclinés de la berge et se tint à ses côtés. « Puis-je vous dire un mot, maître ?» demanda l'intendant Ralph. « Vous pouvez parler, je pense, » dit Dudley, sans regarder ni témoigner la moindre surprise de l'apparition soudaine de son serviteur sur la berge. « Mais m'écouterez-vous ? » « Oui, » répondit son maître, marchant doucement, la tête baissée et les mains dans ses poches. « Et répondrez-vous à ce que je vous demanderai ? » « Peut-être. Il vaut peut-être mieux que je ne parle point ici. Quelqu'un de la ferme peut se trouver dans ses prés et écouter. » « C'est vrai. » « Cela pourrait gâter votre affaire ?»« Où faudra-t-il que je parle alors, maître Carleone ?»« Dans votre chambre, dans la petite pièce en haut de l'escalier de derrière. »« Mais que pouvez-vous avoir à me dire ce soir ?»« Ne vous tourmentez point de cela, maître Carleone. »« Voulez-vous l'entendre, oui ou non ?»« Ou bien dois-je aller à Aulnay et dire à cette dame que « Voulez-vous que je vous jette dans cette rivière ?»« Je n'ai point peur, monsieur, » répondit Ralph Purvis en ricanant. « Cela ferait trop de bruit dans le voisinage. » Dudley Carleone resta silencieux pendant le reste du trajet jusqu'à la maison. Il marchait, son chapeau enfoncé sur les yeux, ne regardant ni à gauche ni à droite. L'intendant le précédait de quelques pas. Il ouvrit la grille et se rangea respectueusement pour le laisser passer. Comme le propriétaire de la ferme grise traversait la salle et ouvrait la porte du salon, il se retourna et dit à son intendant d'une voix assez haute pour être entendue des autres domestiques. « Avant d'aller vous coucher, Purvis, préparez-moi vos comptes. J'irai dans votre chambre les examiner. » Le vent d'automne soufflait avec des hurlements tristes et étranges, et des sons inarticulés et plaintifs s'élevaient des champs plats étolés. Un brouillard d'automne sortait de ces terres dépouillées et des basses prairies, et s'étendait comme un funèbre voile sur la terre, sous lequel la rivière coulait lentement pour aller se jeter au loin dans la mer. Il semblait qu'il y avait dans la nature de cette profonde et tranquille rivière quelque chose d'analogue à celle de l'intendant. Comme lui, elle était sombre et silencieuse. Elle glissait furtivement et était constante dans ses desseins. Comme lui, elle était sur vos talons au moment où l'on s'y attendait le moins, puis s'éloignait à la dérobée pour aller se perdre dans l'obscurité de la nuit. Comme lui, sinueuse et tortueuse dans son cours, on arrivait près de lui sans y songer, et son aspect, comme celui de l'intendant à la figure sombre, inspirait un dégoût instinctif et déraisonnable. De malheureuses paysannes s'étaient rendues en cachette sur ces tristes bords et noyées tranquillement dans les courants où l'eau était profonde, à 20 milles de la ferme grise. Un fils avait frappé son père d'un coup de poignard au cœur et jeté le cadavre pendant l'obscurité dans les flots trompeurs, qui avaient rapporté le corps le lendemain matin et l'avaient déposé roide et défiguré sur le rivage. D'horribles choses s'associaient à ces eaux d'un aspect si triste, et comme elles coulaient en serpentant autour des murs de pierre de l'habitation isolée, elles semblaient encore donner un aspect plus sinistre aux masses sombres des constructions qui composaient la ferme grise. Au plus épais de la nuit, les mariniers, descendant la rivière sinueuse avec la marée, pouvaient apercevoir une lumière, brillait à une petite fenêtre derrière l'habitation. C'était la fenêtre du petit cabinet de l'intendant Ralph Purvis. Sur le plancher de cette chambre, un homme était étendu avec ses cheveux noirs et plats traînant sur les planches blanches et son pâle visage taché et couvert du sang qui s'échappait d'une blessure qu'il avait au front. Un second personnage, à la figure pâle et aux yeux bleus remplis de colère, était penché sur lui, son genou sur sa poitrine et tenant d'une main les plis de sa grossière cravate de laine. « Vous pouvez me tuer si vous voulez, maître Carléone, » dit l'intendant Ralph d'une voix étranglée. « Mais aussi sûr que j'existe, c'est le prix que j'exige pour me taire. » Espion, écouteur aux portes, debout et lavez-vous le visage. Demain, vous et votre sœur partirez pour Londres. Je vous suivrai dans 8 jours. Et vous nous donnerez le prix convenu, maître Carléone ? Demanda Ralph Purvis en se relevant et s'essuyant vivement le visage plein de sang avec un mouchoir de coton rouge. Jusqu'au dernier sou, bourreau. Répondit Dudley Carléone en ouvrant la porte du petit cabinet d'une main prudente. Puis il descendit avec précaution l'escalier conduisant du côté de son appartement. C'était le deuxième chapitre de L'intendant Ralph, une nouvelle de Marie-Elisabeth Braddon, telle que l'a publiée l'éditeur Hachette en 1863, d'après une traduction de Charles Bernard de Rhône. Les intermèdes musicaux étaient extraits de l'album Poirot, une série de morceaux composés par le Britannique Christopher Gunning pour les besoins de la série télévisée du même nom, avec David Suchet. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site de Radio Grand Ciel, radiograndciel.fr. Rendez-vous le mois prochain pour la suite de cette histoire. Thank you.